Le narrateur rencontre dans un autobus un jeune homme au long cou, coiffé d'un chapeau orné d'une tresse au lieu d'un ruban. Le jeune voyageur échange quelques mots assez vifs avec un autre voyageur, puis etc., etc., etc.
Pascal Paradou.
La suite, vous la connaissez ou pas, c'est le début d'Exercice de style de Raymond Queneau, livre paru en 1947 et qui fait figure aujourd'hui de classique. Mais en cette rentrée littéraire, il y a une suite de la suite avec Exercice de swag, un pastiche brillant et joueur signé Léopold Julia, sociolinguiste, spécialiste des anglicismes, professeur des écoles et auteur. Bonjour Léopold Julia.
Bonjour.
Swag, ça veut dire quoi et en quelle langue ?
Alors, d'où ça vient ? C'est encore un anglicisme. C'est désormais entré tout à fait dans les usages. Mais la langue est tellement vivante, elle va tellement vite que c'est déjà ringard en fait, de dire swag maintenant.
Mais ça veut dire quoi, swag ?
C'est un synonyme de style. Avoir le swag, c'est avoir le style. Mais ça se disait il y a quelques années et je crains que ce soit déjà un petit peu passé de mode.
Donc vous êtes un jeune vieux avec ce titre. C'est une traduction ou une transposition, ce projet Exercice de swag ?
C'est-à-dire, qu'est-ce que vous entendez par...
Est-ce que vous traduisez finalement l'intention de Queneau ou est-ce que vous transposez ce projet écrit en 1947 de jouer avec les formes littéraires en 2021 ?
Ben, je dirais qu'il y a un petit peu des deux, en fait. Donc, j'ai repris le même schéma, donc 99 versions différentes de la même histoire. Pour certaines de ces versions, je dirais que c'est vraiment une traduction, parce qu'on a deux langages... alors, ça reste du français hein, à chaque fois, hein, mais on a deux langages qui sont assez distincts et on peut traduire et passer de l'un à l'autre. Et pour d'autres versions, je dirais que c'est plutôt une adaptation, effectivement, en essayant de garder l'esprit de Queneau. Le but, c'est de jouer avec les mots, hein, concrètement.
Alors, l'histoire de Queneau, j'en ai lu les trois premières phrases, elle n'est pas beaucoup plus longue, hein, puisque c'est l'histoire d'une rencontre entre deux hommes dans un bus, et puis à la fin, l'un des deux dit à l'autre qu'il lui manque un bouton. Ça s'arrête là, ça n'a aucun intérêt.
Non, absolument.
De vous à moi.
Tout à fait, non, c'est
donc,
ça.
Donc, le seul intérêt, c'est l'exercice de style, justement.
Exactement,
les 99 fois répétées. En quoi ce livre, Léopold Julia, de Queneau, fait histoire, selon vous, ou du moins est rentré dans l'histoire littéraire ?
Alors peut-être à l'époque parce que c'était un petit peu novateur de prendre la langue comme objet d'étude et d'essayer de la bricoler, de travailler dessus, comme si c'était une matière brute en fait. Et comme vous venez de le dire, en fait, c'est pas le fond qui prime, mais c'est vraiment la forme, et c'est poussé alors à son paroxysme, parce que oui, effectivement, il y a rien de plus banal que cette histoire, rien de moins intéressant, on va dire. Mais voilà, on se détache du fond et c'est vraiment sculpté, travaillé, expérimenté en fait, c'est vraiment ça.
Donc c'est vraiment un travail sur le style. On pourrait vous accuser de faire un pastiche ou de copier Queneau, vous dites que c'est un hommage.
Oui.
Pourquoi ?
Parce que c'est déjà Exercice de style, c'est un livre, ça a été mon livre de chevet quand j'étais petit pendant un bon bout de temps.
À quel âge ?
Je devais avoir une dizaine d'années, pas plus. Et ça m'a fasciné en fait, le fait de désacraliser un petit peu la langue et la littérature en se disant n'importe qui finalement peut jouer avec les mots, peut les triturer et peut expérimenter avec.
Donc vous aviez conscience de cela à 10 ans déjà ?
Alors peut-être pas formulé ainsi, mais en tout cas je percevais qu'il y avait des possibilités qui m'étaient alors jusqu'alors inconnues et qu'effectivement ça désacralisait un petit peu l'image que je me faisais du livre et de la littérature. Quoi.
Vous dites que c'est un hommage à Queneau, ces exercices de swag. Vous dites aussi que c'est une déclaration d'humour à la langue française.
Oui, parce que alors c'est peut-être un peu moins sérieux, on va dire, que l'œuvre de Queneau. On va dire que oui, l'ensemble de mon ouvrage est sur un ton humoristique. C'est peut-être d'ailleurs le but premier, faire rire. Et puis ensuite, pourquoi pas faire réfléchir un petit peu au passage. On va dire qu'il y a, sur les 99 versions, il y a une partie qui va donc être vraiment de la parodie, voire de la caricature. Donc là, le but, c'est clairement humoristique. Ensuite, il y a des versions qui vont être rigoureusement oulipiennes. Je mets des guillemets avec mes doigts. Donc là, ça utilise des contraintes littéraires qui ont été définies par l'Oulipo et utilisées par eux. Et puis, il reste un petit dernier groupe, on va dire, où là, je mets l'accent sur des aspects de linguistique un petit peu plus contemporains que j'essaie d'expliquer de façon très simple. Hein. Ce n'est pas du tout un livre universitaire qui va être ennuyeux. C'est vraiment des toutes petites notes pour aborder des notions comme ça.
Mais ça veut dire qu'on peut rire de la langue française?
Mais j'y compte bien.
Et que la langue française peut être drôle aussi. Elle a cette dimension-là de façon intrinsèque. Alors qu'on parle souvent de langue de façon très, peut-être trop sérieuse, non?
Oui, alors oui, ça va faire grincer certaines dents peut-être du côté de l'Académie française, effectivement. Et c'est justement pour aller à l'encontre de cette vision un peu fantasmée, on va dire, de la langue. Qui voudrait qu'il n'y ait une seule langue française unique et intouchable surtout, et immuable, alors que par définition c'est une langue vivante, donc elle est en perpétuelle évolution.
Humour et style, je vous propose, Léopold Julia, de plonger dans le nouvel album d'Arthur Ashe, album concept qui raconte la mort prématurée d'un chanteur populaire dans la force de l'âge. C'est le titre de l'album.
À la fin du jour, dès que tout s'efface, j'avance dans la nuit, amer et meurtri, si triste que je laisse les papillons noirs posséder mon cœur et ma mélodie. Oh, oh, écoute. Wow, wow, il chante la plus triste des chansons de ce triste monde. Amis des hommes chantés qui connaissaient le prix de la mère vérité, venez vous rassembler, car si le cœur est vide et la vie si vaine, qui va nous pleurer à la procession? Oh, oh, écoute, oh, oh, on chante la plus triste des chansons de ce triste monde. De ce triste monde. La 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 la. Wow, wow, écoute, wow, wow, on chante la plus triste des chansons. Ce triste monde, laisse-la sortir, oh, laisse-la briller, la plus triste des chansons de ce triste monde.
La plus triste des chansons, extrait du nouvel album de Arthur Ashe sur RFI. Léopold Julia est aujourd'hui notre invité pour Exercice de Swag, qui se présente comme la version 2.0 des exercices de style de Raymond Queneau. Vous avez donc, vous aussi, imaginé 99 façons d'écrire l'histoire, de raconter cette rencontre entre deux hommes dans un bus, à la façon de Jean de La Fontaine ou de Proust, dans le langage des geeks ou en version reggae, donc en langue savante ou parler comme l'aimait Queneau, puisque c'était quand même sa grande spécialité, si j'ose dire, c'est de vouloir introduire la langue parlée dans la littérature.
Oui, tout à fait, oui. Et puis Avec l'émergence du numérique, on a de plus en plus de porosité, je trouve, entre la langue parlée et la langue écrite, a fortiori aujourd'hui. Oui.
Et cette idée, Léopold Julia, est née devant une série télé. Racontez-vous dans la préface. Dites-moi le rapport entre une série télé et Raymond Queneau.
Alors, une série télé, en plus, c'est un bien grand mot. Je n'ai aucune honte, hein, je l'avoue, dès la préface. Oui, j'ai regardé une émission de télé-réalité, tout à fait par hasard. Et je me rendais compte, en fait, que sur toutes ces émissions de télé-réalité, eh ben, paradoxalement, en fait, tout était très codifié et ne ressemblait pas vraiment à de la réalité, à ce qui pourrait se passer dans la vie de tous les jours, dans une conversation normale, banale, on va dire. Et on retrouvait les mêmes codes dans toutes ces émissions, dans tous ces concepts, au point qu'on a l'impression que tous ces candidats de télé-réalité ont la même façon de parler, la même intonation, les mêmes tics de langage. Et du coup, ça m'a frappé sur le moment et je me suis amusé du coup à tenter de les imiter. Avec pas beaucoup de brio. Mais de là est partie l'idée, en fait. Je me rendais compte qu'on pouvait raconter n'importe quelle histoire à travers la voix d'un candidat de télé-réalité.
Quoi. Donc, vous avez imaginé du Queneau à la façon la télé-réalité. Et alors, ça donne des choses très, très ludiques. On ne va pas, bien sûr, égrener les 99 versions que vous proposez. Mais il y a, par exemple, une version en québécois, parce qu'il faut rappeler que le français se parle ailleurs qu'à Paris ou qu'à Montpellier, où vous vivez. C'est une sorte de tribu tout Céline Dion, dites-vous. Est-ce qu'on peut avoir dans l'oreille votre proposition de Queneau version québécois?
Alors oui, donc je ne me risquerai pas à faire l'accent. Hein.
Ah, allons-y, un petit mélange accent québécois et accent du Sud.
D'accord. Donc le début, ça donne ça. Tu sais, tu parles la calice d'histoire qui m'est tombée dessus tantôt. Je suis parti un matin en petit char pour aller magasiner dans le bourg, puis ce maudit char était crissement crodit, tu vois-tu. Et ici, un baveux de Josse Blot qui faisait ben capoter tout le monde se met en crise et commence à bardasser joyeusement. Il était complètement fucké dans sa tête, le chum.
Il était complètement fucké. Là, on entend bien Céline Dion, quel que soit l'accent. Alors, il y a d'autres options, façon mythique. Donc Mythique, pour ceux qui ne fréquentent pas, si j'ose dire, c'est un site de rencontre relativement sexuel.
Fringant quinca, Paris 8, aimant l'exercice, la poésie et les balades en ville, cherche jeune homme, 25 ans environ, bien membré, pour faire bout de chemin ensemble, danser, coller serré et plus y affinité.
Et etc, etc, bien évidemment. Donc ça, c'est Mythique. Il y a aussi une version, on parlait de numérique, que vous appelez le langage lit. Alors, vous allez m'expliquer ce qu'est le langage lit, qui est par ailleurs très difficile à lire.
Oui, alors... au bout d'un moment, ça vient un petit peu plus facilement, mais effectivement, oui, d'emblée, c'est très compliqué à lire. Et le fait est qu'il est très peu utilisé, à part sur des mots isolés par-ci par-là. Donc le LEET, L-E-E-T, ou alors écrit 1-3-3-7, justement, en fait, c'est chaque lettre de l'alphabet qui va être retranscrite par un symbole alphanumérique. Pardon. Donc par exemple, le 3 représente le E. Ça nous est arrivé de le voir dans certains logos. Il y a certains groupes de musique aussi qui utilisent ce langage lit pour certains de leurs titres. Et donc, effectivement, c'est un langage par les geeks, entre guillemets, pour les geeks, de manière à rendre un petit peu plus opaque un message pour le profane.
Et ça donne quoi, Queneau en geek?
Alors, si je me cache la traduction, j'aurai moi-même beaucoup de difficultés à le lire, mais je vais quand même essayer.
Tout petit peu, hein, parce que ça peut être un peu rébarbatif.
Oui, tout à fait, oui. La scène se passe dans un bus parisien, le S, un gars dans les 26 ans. Et voilà, j'ai déjà du mal.
Non, mais ça, c'est la traduction, parce que ce qu'on lit, c'est 14, 5 parenthèses, 3 barres dans un sens, barre dans l'autre, 3, 53, barre verticale, étoile, 45, 53, etc., etc. C'est ça, le langage lit.
Oui, tout à fait. Et donc, chaque version est accompagnée d'une petite note qui explique soit la contrainte, soit qui met l'accent sur un point qui a été abordé dans cette version. Et donc là, dans mon explication, je reprends quelque chose qui parle peut-être à plus de monde, c'est le fait, quand on était à l'école, d'écrire par exemple le mot soleil avec notre calculatrice en la retournant et en se rendant compte qu'effectivement certains chiffres pouvaient d'une certaine manière reprendre des lettres de l'alphabet.
Vous êtes bien amusé, non?
Oui. Alors d'abord, effectivement, c'était un projet que je faisais pour moi. Voilà, ça me faisait rire d'écrire ces versions. Voilà, c'était pas du tout dans une ambition de le faire publier. Et puis petit à petit, c'est devenu de plus en plus sérieux et voilà, j'ai essayé.
Et le nouveau Queneau est là au micro de Vive Voix sur RFI. Alors cela peut paraître abracadabrantesque un peu, hein, comme disait quelqu'un, mais Queneau lui-même faisait de la littérature qui flirtait justement avec les mathématiques et l'absurde, démonstration devant un tableau noir.
Le zéro, l'une des découvertes les plus importantes de l'esprit humain. Voici deux bobines de fil. Je les jette par la fenêtre. J'ai fait une soustraction. D'un tas de deux bobines de fil, j'ai enlevé deux bobines de fil. Il reste zéro bobine de fil. Voici trois tire-bouchons. Je soustrais trois tire-bouchons. Que reste-t-il ? Zéro tire-bouchon. On remarquera que si d'un tas de zéro tire-bouchon, je soustrais zéro bobine de fil, il reste zéro tire-bouchon. C, Q, F, D. Eh bien, le zéro, qui sert à numéroter ce qui n'existe pas, si j'en mets un à droite, il sert à numéroter les dizaines, deux, les centaines, trois, les milliers. Attention, si vous en mettez un à gauche, cela ne fait plus rien. Le zéro est un opérateur. Il ne fonctionne qu'à droite.
Raymond Queneau et cet exercice de mathématiques, est-ce que vous diriez, est-ce qu'on peut dire, Léopold Julia, que Queneau a anticipé le langage numérique ?
Alors, je serais bien incapable de répondre de façon claire et définitive à cette question. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à l'Oulipo, ils entretiennent des liens plus que ténus entre littérature et mathématiques, et sciences en général même.
Alors, il faut peut-être dire ce qu'est l'Oulipo. C'est l'ouvroir de littérature potentielle, qui a été créé notamment par Raymond Queneau dans les années 50, avec Robert Le Lyonnais. Et l'idée, c'est de jouer avec le langage.
C'est ça, explorer la langue comme ça n'avait pas été fait de cette manière-là, en tout cas jusqu'alors. Et alors, il ne voulait pas s'inscrire comme un mouvement ou comme un club fermé. C'était vraiment l'idée de la potentialité. Voilà, tout ce qu'on pourrait imaginer. Et l'ouvroir existe d'ailleurs.
Encore aujourd'hui. Ouais. L'idée, c'est que la contrainte, et vous ne dites pas l'inverse, hein, que la contrainte crée de la liberté. Ce qui peut paraître paradoxal.
Oui, tout à fait, mais je crois que c'est Perec qui le disait lui-même. Donc, Georges Perec, qui est un oulipien, un des plus éminents oulipiens, il le disait lui-même, c'est ça, que la contrainte, finalement, elle libère. Alors, c'est un peu orwellien, pardon, comme considération, mais c'est ce qu'on disait en tout début. Le fait de s'imposer des contraintes et de se focaliser sur la forme, bah finalement, ça libère un petit peu la pression qu'on se met soi-même sur le fond. Et ça peut soulager, au moins momentanément, l'angoisse de la page blanche.
Alors, dans les exemples qu'on a entendus dans votre bouche, d'ailleurs dans votre voix, Léopold Julia, il y a à la façon de Céline Dion, à la façon d'une annonce sur Mythique ou d'un geek, mais vous avez aussi intégré dans ce livre des contraintes spécifiquement oulipiennes, comme par exemple la boule de neige. Mmh. Donc la boule de neige, ça consiste en quoi ? C'était un jeu inventé par ce petit groupe. Ça consiste à commencer toute phrase par une lettre, c'est ça ?
C'est ça. Il faut que le premier mot ait une lettre, le deuxième mot deux lettres, le troisième mot trois lettres et ainsi de suite.
Donc vous vous êtes quand même pas mal à amuser, même si ça a dû être un peu compliqué à lire tout cela et à écrire tout cela plutôt. D'autant que vous avez aussi intégré une autre de vos facettes, c'est de travailler sur les anglicismes. On va en parler. Vous faites en ce moment une thèse et vous avez imaginé une version de ces exercices de style vue par un mec de la com. Ça, c'est, je vous cite, hein, j'oserais jamais dire des mots pareils. Ça donne quoi, un mec de la com qui fait du Queneau ?
Alors, ça donnerait... Inutile d'espérer une crise, la valeur perçue de l'expérience in-store en faisant le flash showrooming à bord d'un autocar parisien. Alors certes, on évite les zones froides et on crée du trafic en boutique puisque le drive-to-store est assuré, mais quel trafic ! L'aire de marché est beaucoup trop restreinte et les modèles ne sont absolument pas mis en valeur. De fait, on proposera de retargeter notre cœur de cible selon un socio-style différent, car le profil des smart shoppers que nous visions est dangereusement sous-représenté.
Est-ce qu'il y a trop d'anglicisme dans le français parlé ? La question que je vous pose, c'est au doctorant, Léopold Julien, puisque vous travaillez sur l'unilinguisme français et la place des anglicismes dans les dictionnaires.
C'est ça, mais c'est toute la question que j'essaie de me poser, à laquelle j'essaie de répondre de façon scientifique et objective, en tout cas. Est-ce qu'on est réellement envahi par les anglicismes ? Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend très souvent. L'Académie française les pourfend depuis des décennies et des décennies. On a souvent des tribunes linguistiques dans certains journaux qui les fustigent aussi. Et du coup, je me suis posé la question, est-ce que c'est vrai qu'on est envahi par les anglicismes ? Du coup, j'ai trouvé une méthode qui, il me semble, n'avait pas été explorée jusqu'à présent. J'ai pris les dictionnaires usuels, les dictionnaires d'usage Larousse et le Robert, depuis 1998 jusqu'à aujourd'hui. Et parmi les nouveaux mots qu'on découvre chaque année, donc c'est aux alentours de mai qu'on a les dossiers de presse qui font la pub des prochains dictionnaires. Et donc la presse en général fait un petit article dessus, puisque on est tous friands de découvrir, tiens, quels sont les nouveaux mots de l'année. Et donc j'ai pris tous les nouveaux mots annuels depuis 1998 et j'ai calculé le pourcentage d'anglicisme parmi ces nouveaux mots en essayant de voir s'il y avait une évolution ou pas.
Alors le suspense est à son comble.
Alors oui, effectivement, il y a de plus en plus d'anglicismes. Mais, parce qu'il y a un mais, évidemment, cette analyse qui est purement numérique, on va dire, mathématique, ne doit pas se soustraire à une analyse plus qualitative, on va dire. Alors oui, il y en a plus, mais il faut se poser les questions. Est-ce que c'est parce que vraiment on est envahi par les anglicismes ou est-ce que c'est parce que les discours qui sont très pourvoyeurs d'anglicismes sont de plus en plus présents dans notre vie quotidienne ? Et à mon sens, il me semble que c'est le cas.
Voilà. Voilà donc votre travail de doctorant. On va parler de votre job de prof des écoles aussi, parce que finalement, est-ce que les enfants connaissent Queneau ou pas ? Vous l'avez découvert à 10 ans, je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde. En attendant, en français dans le texte, je vous invite à écouter La Puce.
La Puce à l'oreille.
Bonjour Lucie.
Bonjour Pascal.
Pour continuer à citer Raymond Queneau, je trouve que vous avez un petit côté Zazie dans le métro aujourd'hui.
Zazie dans le métro, vous dites ça sans doute à cause de mon côté bout en train.
Absolument.
Le bout en train, donc, une expression que j'aime particulièrement et dont nous allons parler aujourd'hui avec Jean Pruvot. Bout en train, mais quel rapport y a-t-il entre le train et notre expression ? Eh bien, les ados que j'ai interrogés ont tenté de raccrocher les wagons. Jugez plutôt, ils ont de la suite dans les idées.
Quand on dit à quelqu'un t'as un bout en train, enfin, c'est pour dire que t'es un peu embêtant, t'es un peu le dernier, un peu comme le dernier wagon du train.
Moi je pense que c'est un mini bouton pour les vêtements. Bouton train.
Alors c'est pas bouton, c'est bout en train.
Ah, peut-être c'est le début du train.
Un bout en train, c'est peut-être quelqu'un, c'est un fardeau.
Je sais pas c'est quoi.
C'est un bout, il est dans le train. Un imbécile.
C'est le bout du train. Le bout du train, il est souvent à l'opposé du début du quai. Et donc, tu dis, tu pars à l'autre bout du monde, quoi. Tu pars loin. Donc, tu dis, tu pars de bout en train.
Quelqu'un qui est en bout en train, c'est quelqu'un qui parle beaucoup. Donc, il prend des heures à parler. C'est comme le bout en train, marcher jusqu'au bout du train.
La puce à l'oreille.
Alors, Jean, pour bien comprendre l'expression, d'abord, peut-être qu'il faut la décomposer. Le bout en train, qu'est-ce que c'est que bout ?
Alors, vous faites bien de dire qu'il faut la décomposer, parce que justement, dans le dictionnaire de l'Académie, il suggère aussi qu'on peut l'écrire en un mot. Bon, je crois qu'il faut garder quand même l'orthographe traditionnelle, parce qu'elle permet de bien comprendre le mot bout-en-train. Et quand les enfants parlent du train, c'est logique. Parce que le train, au départ, c'est avoir la forme de l'entrain. On est dans le train.
Quand on dit quelqu'un qu'il a de l'entrain, c'est que
oui, voilà,
il
voilà.
est dynamique et qu'il est en mouvement.
Et c'était l'origine du mot train. C'était tous ces chariots qui suivaient les rois. et qui, dans le fond, allait dans un autre château. Et donc, on comprend bien cette idée de train après des wagons qui se succèdent.
Et donc, Boot, ça vient de quoi ?
Alors, Boot, vous savez, on dit souvent Jeanne d'Arc a booté les Anglais hors de France. Donc, on voit bien que c'est poussé. C'est aussi un mouvement, comme le train. D'ailleurs, les enfants l'ont bien senti. Et c'est, de manière violente, mettre en dehors.
Hein,
et donc
chasser.
Donc bouter est un mot qui n'existe quasiment plus, sauf dans cette expression presque archaïque, bouter les Anglais ou bouter hors d'eux. Alors il y a aussi un autre emploi du mot bouter et bout en train. Parce qu'en fait le bout en train, c'est le cheval qui ne profitera pas de la jument, là c'est vraiment du sadisme, mais qui est chargé de repérer quelles sont les juments qui sont en chaleur. Ensuite, on laisse la place à l'étalon. Et là, c'est le bout en train. Les académiciens sont même allés un peu plus loin. Dans l'édition de 1718, voilà ce qu'ils disent. On appelle ainsi un petit oiseau qui sert à faire chanter les autres et qu'on nomme autrement tarin. Et figurément, on appelle aussi de la sorte, dans le style familier et bas, un homme de plaisir qui excite les autres et qui les met en train.
Alors, que ce soit en tout cas l'oiseau ou le cheval, on a bien compris que c'était celui qui stimulait, en fait.
C'est ça, qui les met en entrain, donc d'une certaine manière, ça reste un mot très beau, surtout si on garde justement ces traits d'union.
Mais on passe de l'animal à, d'un seul coup, le compagnon de fête.
Oui, c'est ça. Alors, l'animal reste encore dans le vocabulaire de l'équitation, ou en tout cas de l'élevage des chevaux. Mais bon, c'est un mot spécifique. Mais vraiment, le bout en train, c'est effectivement la personne qui... Je dis la personne parce qu'une femme peut être bout en train.
Absolument. Ah, donc c'est quelqu'un qui stimule ses camarades avec sa bonne humeur.
Oui, c'est ça.
C'est un peu le guéluron.
Oui, alors ça c'est une très belle formule, le guéluron. Le guéluron au milieu des autres et pour les autres. Hein, c'est peut-être la petite différence, c'est pour ça que ce mot est un peu irremplaçable, même s'il a des synonymes.
Et c'est le bon vivant.
C'est le bon vivant, effectivement. À la limite, on pourrait dire que le bout en train, c'est un bon vivant actif et qui auprès des autres est l'amuseur.
C'est le joyeux de rire.
Ah, ça, c'est excellent, le joyeux d'oïe.
Le vraiment... farceur.
Oui, tout à fait.
Le loustique.
Le loustique. Loustique qui a un petit côté négatif.
Oui. Alors, en Allemagne, on n'y va pas par quatre chemins. On parle carrément de canon à bonne humeur.
Eh ben oui, alors,
c'est formidable.
Oui, oui, là, c'est énorme. En anglais, vous l'avez vu aussi. Ce qu'il
le
dit.
Fil électrique vivant.
Ouais, ça manque pas de charme.
Très bien.
En espagnol, avoir la gaieté... des étincelles.
Alors, j'ai aussi trouvé la gaieté dans le potager.
Oui, ça, c'est extraordinaire.
je ne sais pas.
Je ne sais pas trop ce que c'est la gaieté dans le potager.
Il faudrait demander à un jardinier.
Oui, ou à une jardinière, je ne sais pas, mais bon.
Eh bien, merci, mon cher Jean. Vous aussi, vous êtes la gaieté dans le potager. merci d'être venu nous voir dans la puce avec votre légendaire entrain. Je rappelle aux auditeurs que vous avez récemment fait paraître un nouvel ouvrage qui s'intitule Les mots de l'école et qu'il est paru aux éditions Honoré Champion. Merci Jean et à très bientôt.
Merci beaucoup Lucie.
Merci à vous deux. La gaieté dans le potager, je n'aurais pas imaginé cette expression pour parler de votre livre Léopold Julia, mais je trouve qu'elle est finalement pas mal. Donc dernière question de cette émission, vous qui êtes prof des écoles et qui connaissez bien Queneau, qui faites ces exercices de swag, est-ce que les enfants en primaire connaissent Queneau et est-ce qu'ils font des exercices oulipiens avec bonheur ?
Alors, est-ce qu'ils le connaissent avant ? Pas forcément, mais j'essaie moi de leur faire découvrir. Et très régulièrement, quasi quotidiennement, quand j'ai des grands, on fait ce qu'on appelle des jogging d'écriture. Donc un tout petit exercice d'écriture, pas une longue rédaction de plusieurs pages qui risque de les freiner. Donc sur un petit thème, écrire 2, 3, 4 phrases maximum. Et effectivement, le recours aux exercices oulipiens est un bon moyen de déclencher l'écriture.
Parce que c'est joyeux.
Parce que c'est ludique, oui.
On peut s'amuser, c'est pas forcément apprendre des fables du début à la fin. Merci beaucoup Léopold Julia.
Merci à vous de m'avoir
Exercice de swag est publié aux éditions de L'Opportun. Et c'est une saine lecture de vive voix. Pascal Paradou, programmation Cécile Lavolo, Guillaume Ploquin à la réalisation. Eh bien, on se retrouve demain.